Voilà, donc on a vu, je dirais depuis ce matin, à quel point la Chine est devenue ou redevenue un acteur économique et politique important dans la mondialisation. Alors au moment où la France va s'apprêter à prendre la présidence de l'Union européenne et où elle s'implique dans le développement de l'Union méditerranéenne, au moment également où notre école centrale Marseille est, la présidence du réseau méditerranéen des écoles d'ingénieurs, on a souhaité interroger les participants de notre seconde table ronde sur l'influence économique que prend aujourd'hui la Chine dans le bassin méditerranéen. Donc, participant à cette table ronde, donc Monsieur Christian Stoffaes, qui est président du conseil du CEPI, qui est également professeur associé à l'Université Paris-Dauphine et membre du Cercle des économistes. Nous aurons également M. Pierre Provenzano, qui est président du comité Essonne des conseillers du commerce extérieur de la France et vice-président de la CGPME 91, donc de l'Essonne. M. Louis Alossio, qui est vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence. Et M. Ralid Kabbaj, qui est président tout récent de l'Association marocaine des ingénieurs de l'École centrale Marseille. Voilà. Donc je vais passer la main à Madame Barbier pour la première question.
On sait d'où viennent tous les intervenants, vous ne savez peut-être pas d'où je viens. Je suis rédacteur en chef de Chine Plus, de CCE International, qui est la revue des conseillers du commerce extérieur de la France, et de Chine Plus. Le but de Chine Plus, c'est d'essayer de familiariser les opérateurs français à la manière dont la Chine et les Chinois fonctionnent. Donc on est très affaires, très économie, et si je vous en parle aussi, c'est qu'on est très près du terrain et on a besoin de toutes les expériences des opérateurs, bien sûr, des opérateurs français, donc éventuellement de vous. Vous pouvez faire remonter des informations. Et puis, bien sûr, des Chinois, qui sont notre information numéro un. Alors, le thème, là, c'est l'influence de la Chine sur le pourtour méditerranéen. J'avoue que jusque-là, j'avais surtout pensé à l'influence de la Chine sur l'Afrique en règle générale. Tout le monde commence à s'y intéresser, il y a des bouquins qui sont en préparation, d'autres qui vont sortir. On voit très bien pourquoi les Chinois ont mis le cap sur l'Afrique, les matières premières, plus un tas d'autres raisons, aussi la vente d'un tas de produits, vu la concurrence effrénée qui existe chez eux. Je voyais un petit peu moins au départ, mais je commence à voir un peu plus clair grâce aux interlocuteurs que vous allez avoir là, la politique de la Chine sur le pourtour méditerranéen. Alors, pourriez-vous, peut-être commencerai-je par vous, Monsieur Stoffaes, pourriez-vous nous décrire les grandes lignes de la politique de la Chine sur le pourtour méditerranéen ?
Écoutez, je crois que c'est vraiment une innovation historique de voir deux zones géographiques qui étaient très éloignées l'une de l'autre, qui avaient très peu de rapports entre elles, commencer depuis très peu de temps à développer des relations économiques très, très puissantes et en très forte expansion. Alors, quand je dis qu'il n'y a pas de précédent historique, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a eu la route de la soie. La route de la soie, c'était il y a très longtemps. C'est pas le Moyen-Âge, c'est l'Antiquité, la route de la soie. La route de la soie, c'est la route continentale qui unissait l'empire chinois, Xi'an, la capitale historique, et les rivages de la Méditerranée à travers l'Asie centrale. Donc c'était la soie dont la Chine avait le monopole contre des produits venant du monde méditerranéen. Mais c'est certainement une rupture majeure. Alors c'est typiquement ce qu'on appelle le Sud-Sud, la mondialisation, le commerce international. Traditionnellement, c'était le Nord et le Sud, produits manufacturés du Nord, matières premières du Sud, le pacte colonial. Là, c'est quelque chose de tout à fait nouveau à quoi on assiste. Alors, c'est dû au fait que la Chine est une puissance non seulement économique, mais une puissance nationaliste. Bon, la Chine a été précédée dans l'invasion des marchés mondiaux par des produits manufacturés réalisés avec de la main-d'œuvre à bas coût par d'autres pays. Les dragons d'Asie du Sud-Est, le Japon, ont précédé la Chine déjà depuis plusieurs décennies. Mais la Chine est une nation impérialiste, c'est-à-dire que c'est un État puissant. Le Japon est déjà un grand pays. Bon, que Hong Kong ou Taïwan n'aient pas de politique d'États, ça se comprend assez bien parce que ce sont des petits pays. Le Japon est un pays déjà assez grand, c'est 120 millions d'habitants, mais le Japon est très lié aux États-Unis, donc c'était très difficile pour le Japon d'avoir une politique extérieure puissante, accompagnant son expansion économique. Le Japon s'est toujours bien gardé d'éviter de donner tout signe d'impérialisme. En revanche, la Chine n'a pas le même complexe et le même scrupule. J'ai entendu que la Chine a été adversaire des États-Unis pendant un demi-siècle, pendant la guerre froide, donc la Chine n'a vraiment pas de leçons à recevoir des États-Unis ou de l'Occident et mène sa propre politique. Alors, quels sont les déterminants de cette politique? C'est typiquement des motivations de ce qu'on appelle l'impérialisme économique, c'est-à-dire la recherche de débouchés privilégiés et la recherche de la sécurisation de l'accès aux matières premières. Alors, tout ceci se fait évidemment dans un cadre multilatéral de libre-échange, mais il y a incontestablement des objectifs nationaux. Trouver des débouchés pour les productions manufacturières grâce à l'avantage compétitif de la manœuvre à bon marché, et d'autre part sécuriser ses approvisionnements en matières premières, parce que la Chine a énormément besoin de matières premières pour son expansion économique. Elle n'en a pas beaucoup, à vrai dire. Bon, elle a beaucoup de charbon, mais elle n'a pas assez de pétrole ni de gaz. Les minerais lui font défaut, les produits agricoles lui font défaut aussi, et bien sûr en Méditerranée, elle trouve, enfin en Méditerranée au sens large, y compris le Moyen-Orient, elle trouve bien sûr des ressources pétrolières. En Afrique, comme ça a été signalé, ce sont des matières premières minérales. Donc c'est un phénomène tout à fait nouveau. Alors c'est un phénomène qui nous interpelle tout particulièrement nous en France, puisque le Maghreb, enfin le monde méditerranéen, la France y joue un rôle important historiquement depuis plusieurs siècles, y occupe une place économique importante, notamment avec les États du Maghreb, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, et il est certain que nos exportateurs, les entreprises françaises, commencent à trouver sur leur chemin des entreprises chinoises. Bien sûr pour le commerce manufacturier, mais aussi pour les contrats de concessions et en particulier les travaux publics. On sait très bien que la main-d'œuvre chinoise, les ingénieurs, les sociétés de bâtiments travaux publics chinoises construisent d'énormes programmes d'infrastructures, de logements à des coûts inférieurs à leurs concurrents français. Alors tout ceci peut inquiéter, mais enfin ça inquiète si on croit aux vertus du libre-échange et du libre-commerce, c'est plutôt un phénomène positif. Et je trouve personnellement que la Chine vient déranger utilement des équilibres qui étaient un peu assoupis. C'est une secousse, ça interpelle et ça oblige à bouger. Ça oblige à bouger. Parce qu'il faut bien voir que dans l'économie mondiale, dans la fameuse globalisation, le monde méditerranéen est quand même à la traîne. L'économie mondiale, bien sûr, c'est les pays développés, l'Amérique du Nord, l'Europe, auxquels se sont joints depuis une trentaine d'années le Japon et l'Asie du Sud-Est. Maintenant, on voit arriver les grands émergents, c'est-à-dire la Chine, l'Inde, le Brésil et la Méditerranée dans tout ça. Mais la Méditerranée, elle est à la traîne. L'Afrique est à la traîne. Le monde méditerranéen est à la traîne. Pourquoi ? Parce que ces pays sont divisés, sont souvent en guerre, il y a des querelles et des conflits, les conflits post-coloniaux, les conflits du Moyen-Orient, et tout ceci n'est pas très bon pour la zone. C'est la zone la plus en retard dans le monde. Alors heureusement, certains pays ont des ressources de matières premières, de pétrole et de gaz. C'est pas sûr que ce soit une bénédiction, puisque quand on a des matières premières, à la limite, c'est un prétexte pour ne pas travailler et pour ne pas exporter. Donc le fait que la Chine arrive, je pense, est au bout du compte un phénomène favorable et positif pour le développement de cette zone.
Bien, bien, nous verrons comment les choses... Je voudrais me retourner maintenant vers Monsieur Alossio. Oui, Alossio, vous êtes vice-président de la Chambre de commerce de Marseille. Vous voyez les choses se faire. Alors comment, sur le terrain, se concrétise ce dont vient de parler M. Stoffès dans les grandes lignes?
Ah oui, c'est ça, c'est que les Chinois qui viennent sur notre territoire, c'est ça le sujet, c'est dans ça que nous sommes interpellés. J'ai aimé votre phrase, la Chine vient utilement déranger les équilibres assoupis, c'est ça que vous avez dit, c'est exactement ça. Donc voilà l'enseignement qu'on en tire, parce que dans le contexte, la Chine nous rappelle d'abord une chose, c'est que, aussi bien d'ailleurs les Chinois que les Japonais ou que les Américains, ce sont des pays qui consacrent une bonne partie de leur PIB aux idées, aux investissements directs étrangers. C'est 20% à leur sud, pardon, consacrent d'investissement à leur sud. Ces trois grandes puissances consacrent près de 20%, pour certaines plus de 20% de leurs investissements à leur sud, les États-Unis avec le Mexique, les Caraïbes, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, le Japon avec la Corée, avec Taïwan, avec l'Asie du Sud-Est, et la France, dans ce contexte-là, c'est 5% de ses investissements qui vont sur la zone Méditerranée-MEDA. Donc, déjà, premier point, on a un petit rappel que peut-être que si nous sommes riches au nord, notre croissance ou la croissance va peut-être se jouer au sud. Et c'est ça le réveil que ça devrait un petit peu nous susciter, de manière à ce que nous modifions un peu nos comportements. Et dans le comportement, là, il y a aussi quelque chose qu'il va falloir modifier. Je veux dire, au plan politique, la Chine sur la Méditerranée se comporte en riche. Se comporte en seigneur, c'est-à-dire qu'elle abandonne des dettes, elle fait des dons, elle intervient, elle organise maintenant des sommets mondiaux. Donc elle se comporte comme une espèce de parrain que nous étions à un certain moment et que nous avons un peu oublié d'être. Donc au plan politique, on est encore trop souvent sur le sujet, quand je dis de la Méditerranée, on va dire de la Méditerranée du Sud, on est encore trop souvent sur un sujet donnant-donnant avec nos calculs rationnels en se disant, et donc on oublie qu'on a un rôle à jouer et une attitude un peu gratuite encore, un comportement un peu gratuit à avoir pour qu'effectivement dans la durée nous ayons ce retour. Pourquoi ? Parce que la Méditerranée et les pays de la Méditerranée sont un peu sur le même registre de sensibilité que n'est la Chine. La Chine est très latine. La Chine est très cerveau droit. Le chinois, il est très cerveau droit. L'européen est beaucoup plus cerveau gauche, influence allemande ou anglaise. À Marseille, on a la chance, on est assez bien équilibré, un bon équilibre, cerveau droit, cerveau gauche.
Évidemment, on s'en serait douté.
Je savais, il fallait bien que je l'amène. Il y a une majorité de Marseillais dans la salle. Si, si.
Bon, c'est d'accord.
Donc, et donc, il faut jouer de ça. Non, mais il faut vraiment jouer de cela parce que j'ai assisté aux 10 minutes de l'intervention tout à l'heure. Quelqu'un disait, à juste titre, pour travailler en site, il faut être chinois. En fait, c'est ça. Il faut utiliser tout ce que le cerveau droit nous donne pour installer cette vraie complicité, donc aussi le temps. Le temps, la relation, la complicité, avant d'installer tous les éléments rationnels que l'école centrale a pu donner et doter une bonne partie d'entre vous. Donc, et ça, les Chinois, quelque part en Méditerranée, sont un peu chez eux, comme nous devrions légitimement l'être, du fait de notre proximité traditionnelle. Donc cet élément du contexte, des investissements complètement déséquilibrés, une part de nos investissements totalement déséquilibrés par rapport à ces pays du Sud, deux, un comportement politique que peut-être le président Sarkozy a voulu un peu réveiller en installant l'idée d'union pour la Méditerranée, on va en parler. Mais donc déjà, je voudrais installer cet élément-là comme élément de contexte.
C'est une piqûre de rappel, on aurait dû faire ça.
C'est pas trop tard pour le faire.
Comment on les voit arriver ?
Alors, est-ce qu'on les voit arriver avec une stratégie globale méditerranéenne ? Nous ne le croyons pas. Ah oui, c'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Qu'ils aient une stratégie africaine, ça paraît. Enfin, moi, je suis pas expert, mais ça semble se dire, ça semble se constater. Quand on observe, moi, j'étais l'année dernière en Algérie, c'est frappant. On voit bien, en Algérie, ils sont venus pour leurs besoins d'énergie, ils ont investi, et puis ils sont venus à Alger. Il y a plus de 30 000 Chinois qui sont dans le bâtiment, vivant dans des conditions épouvantables, et les employeurs et les entreprises chinoises qui sont là, s'arrachant les cheveux avec la main d'œuvre algérienne, les revendications même sociale des Algériens, donc c'est pas si simple que ça. Donc en Algérie par exemple, on les voit sur l'énergie, sur le bâtiment, donc ce sont des secteurs, et en particulier sur les énergies, ils investissent sur le bâtiment, ils viennent avec leur main d'œuvre. C'est des secteurs, on va dire, qui ne sont pas de très haute valeur ajoutée. Les ministres algériens nous disaient, laissons faire les HLM par les Chinois, mais aidez-nous avec vos sociétés d'ingénierie et venez nous aider avec vos bureaux d'études à faire de l'ingénierie de projet, parce que là, nous sommes en manque. Donc, si on prend la Libye aussi, ils investissent, en Égypte aussi, ils sont au travers de l'énergie. Mais je pense que la deuxième leçon à retenir, c'est qu'encore une fois, qu'ils viennent avec leur savoir-faire, avec le textile, ils vont venir aussi avec leurs touristes. Donc ça, ça va être aussi une manne pour la Méditerranée. Le nombre de touristes chinois augmente considérablement. Donc, ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas s'affoler par rapport à ça. Il faut au contraire se dire, ça conforte nos positionnements qui doivent relever de la valeur ajoutée. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut s'engouffrer, et il y a un certain nombre de secteurs où nous allons bien, l'environnement, les énergies, la santé, la formation, il y a un certain nombre de pistes sur lesquelles il semblerait qu'on ait vraiment à nous engouffrer, parce qu'elles vont bien avec ce que sont les développements les développements économiques dans nos pays, avec nos capacités, et il n'y a pas lieu dans ces catégories-là à confrontation directe et à concurrence directe avec, par exemple, la Chine.
Bien. Alors, messieurs les opérateurs, que ce soit M. Provenzano ou M. Khaled Kabbaj, on va peut-être commencer par vous, M. Kabbaj. Est-ce que vous, vous pouvez nous décrire des exemples d'arrivées de Chinois au Maroc, puisque c'est plutôt le Maroc qui sont vos terres?
Merci, Madame Barbier. Merci de m'avoir associé à cette table ronde, bien que je ne sois pas un spécialiste de la Chine. Mais ce matin, avant d'arriver, je me considérais quelque part, avec la proximité avec notre culture, quelque part avec une culture occidentale. J'ai suivi aujourd'hui avec intention les différentes interventions, et puis finalement, je me dis, je suis peut-être chinois. De part, bon, je ne veux pas dire du mal de mon pays, de part ce qui a été dit au niveau de la transparence comptable, système judiciaire, les droits de l'homme, les capacités de négociation, et tout ça, le temps, bon, on en a à en revendre. Finalement, donc nous avons une double culture, une culture d'une vieille civilisation qui est proche de la culture chinoise, et aussi une culture occidentale de par notre proximité, de la part de nos relations historiques avec l'Europe et surtout avec la France. Donc finalement, en écoutant les interventions, je me suis dit peut-être, et suite aux recommandations qui ont été dites tout à l'heure, il faudrait être chinois pour investir en Chine, peut-être il faudrait utiliser les pays du sud de la Méditerranée pour investir en Chine et faire des partenariats mixtes pays du sud de la Méditerranée, Chine et Europe. Nous avons les capacités de négocier. Franchement, je me suis retrouvé un peu dans la manière dont on a décrit les Chinois. Et tout ça m'a donné l'explication de ce que j'ai pu découvrir ces derniers jours quand on m'a demandé d'intervenir. Finalement, la relation entre le Maroc, bon, je vais parler du Maroc, le pays que je connais, bien que ça peut généraliser aux autres pays du Maghreb, et les relations entre le Maroc et la Chine datent de 1958. Elles ont 50 ans d'ancienneté par rapport aux relations historiques qui sont de plusieurs siècles avec l'Europe. Et en 50 ans, les relations se sont développées d'une manière très très vite, surtout ces 10 dernières années. Quand ce matin, Jean-Christophe Victor a dit que les Chinois ont balayé pratiquement la totalité des pays africains, c'est vrai. C'est vrai, depuis 1999, nous avons reçu l'ex-président Jiang Zemin en 1999. Le roi Mohamed VI a fait une visite avec toute une délégation en Chine en 2002. En 2006, on a reçu l'actuel président chinois. Et tout ça, ces relations diplomatiques se sont faites d'une manière très saine. Et on a vu le résultat encourageant sur le côté économique. Et donc finalement, cette coopération sud-sud est en train d'édifier un nouvel ordre politique et économique plus rationnel. Bien qu'avec nous, ils se comportent, comme ça a été si bien dit, en pays riches, en pays comme les pays du Nord. Effectivement, il y a eu des dettes qui ont été abandonnées, il y a des soutiens, il y a des aides en matière de coopération dans le domaine de la santé, dans la pêche. Il y a plusieurs caravanes médicales qui sont venues au Maroc pour aider les populations démunies. Il y a des médecins chinois qui sont installés dans plusieurs hôpitaux marocains. Et puis finalement, la Chine est devenue le quatrième partenaire du Maroc, après la France, l'Espagne et l'Italie, avec un taux d'augmentation annuel de plus de 30%. En 2007, rien qu'au premier semestre, le taux d'augmentation des relations des échanges commerciaux, enfin les échanges sont très déséquilibrés, surtout les importations de Chine, ont atteint un taux d'augmentation de 44%. Donc tout ça nous incite à être un peu plus vigilants, parce que je pense que les entreprises chinoises sont intéressées par la situation stratégique du Maroc pour peut-être délocaliser une partie de leur production destinée vers l'Europe. Donc je pense qu'eux, ils ont déjà anticipé ce rapprochement à l'Europe via le Maghreb. Je dirais que l'Europe devrait aussi utiliser le Maghreb ou les pays du sud de la Méditerranée pour mieux se rapprocher de la Chine.
Oui, alors effectivement, les délocalisations pour s'ouvrir des marchés qui deviendraient de plus en plus difficiles, les Chinois les utilisent à plein. Mais puisque vous parliez de la politique chinoise qui consiste à donner, comme le faisait le colonisateur avant ou l'ancien colonisateur, je voudrais poser la question quand même de la concurrence loyale. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Stoffes, quand vous dites, bon, ça réveille tout le monde, ok. Seulement, on est face à une économie dirigée, dirigée fermement. Et quand il y a une politique pour investir un pays, l'État ne regarde pas et vous avez des contrats de BTP, par exemple, qui sont faits que personne ne peut suivre. C'est pas parce que les pays riches pratiquent des prix extraordinaires, c'est que de toute façon, il y a des prêts sans contrepartie. On n'a pas affaire là à une concurrence loyale. Peut-être que M. Provenzano, qui l'a vécu de plein fouet, cette concurrence, pourrait répondre. Et puis après, M. Stoffet, je vous laisserai la parole.
Je pense que, tout d'abord, pour remettre les choses en place, au Maroc, comme dans tous les pays du Maghreb, c'était inéluctable. C'est-à-dire que la France ne pouvait que perdre des positions. Quand on est leader pendant si longtemps dans un pays, on ne peut que perdre des positions. C'est quasiment impossible de les renforcer.
Oui, c'est même pas sain d'ailleurs qu'il y ait quelqu'un qui soit.
Ça me paraît tellement évident. Bon. Et tout le monde s'étonne de savoir qu'on perd des places dans les pays du Maghreb, qui étaient les pays naturellement d'échanges prioritaires avec la France. Et les Français se sont un peu endormis sur cette politique d'ancienne colonie, hein, quelque part, et n'ont pas fait les efforts nécessaires à pouvoir renouveler cela et aller ailleurs. Quand notre ami dit qu'il faut utiliser le Maroc pour aller en Chine, je suis d'accord, c'est complètement. Il faut savoir que le salaire moyen d'un Chinois équivaut au salaire moyen d'un Marocain. Alors ça, c'est aussi une vérité qu'il faut clairement dire. Le SMIC au Maroc est à 160 euros. Et aujourd'hui, dans la zone développée de la Chine, le SMIC en Chine est équivalent. Donc c'est le même salaire. Pourquoi est-ce qu'on délocalise en Chine et pas au Maroc? C'est exactement le même salaire. Donc, et puis les compétences existent également dans les pays du Maghreb. Et puis c'est à 2 heures de Paris. Et puis on parle français. Et puis on a une culture commune. Et puis on a tout un tas d'avantages qu'on n'a pas et qui deviennent des difficultés en Chine. Pourquoi est-ce qu'on délocalise? Pourquoi est-ce qu'on se multilocalise? Parce que j'aime pas le mot délocaliser. Pourquoi est-ce qu'on se multilocalise en Chine plutôt qu'au Maroc? Ben c'est simplement à cause du marché. Parce que au Maroc, on peut, enfin, il y a un pouvoir de consommation qui est ce qu'il est, mais qui n'a rien à voir avec celui qu'on a entre la Chine et les pays environnant la Chine. Donc notre intérêt, c'est évidemment. Alors, les Chinois eux, ont bien compris qu'ils pouvaient rentrer en Europe par l'intermédiaire des pays du Maghreb. Et quand ils ont, ces 2 dernières années, délocalisé 17 usines de chaussures en Afrique, noires pour l'instant, pour servir l'Afrique et commencer à servir les pays de l'Est, ils ont bien compris, eux, ce qu'était la multilocalisation. C'est-à-dire que les usines en Chine continuent à fabriquer et deviennent de plus en plus chères, puisque à cause de la législation du travail en Chine, que je considère personnellement être une très bonne nouvelle, puisque ça remet les choses en ordre un petit peu, et puis ça veut dire aussi qu'ils vont avoir de plus en plus de difficultés à fabriquer à des coûts trop bas. Bon. Ce qui nous intéresse quelque part, hein, évidemment, si on veut défendre un peu l'économie européenne. Eux continuent à fabriquer pour les marchés dits riches, c'est-à-dire occidentaux, américains et autres. Et par contre, ils sous-traitent, ils délocalisent leur fabrication, en Afrique en particulier, pour fabriquer encore moins cher qu'en Chine, pour le marché local et pour le marché chinois. Et donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont intéressés par le Maroc, à la fois pour le marché marocain, mais ce n'est pas un gros marché. Cela étant dit, tout le petit commerce des petits grossistes à la sortie de Casablanca sont de plus en plus tenus par les Chinois. Et on voit des petites boutiques où avant c'était des Marocains et des Berbères qui tenaient ça. Aujourd'hui, c'est quasiment des Chinois. Alors, toutes les babioles qu'on peut trouver, toutes les copies en automobile, les pièces détachées, etc., les pneus de voiture et de camion, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, sont tenus par des Chinois, mais eux ont bien compris, en dehors de cette lame de fond, j'allais dire commerce, que le fait d'être implanté dans les pays du Maghreb, eh ben, ça leur permettait de bénéficier des accords, soit de libre-échange, soit d'échanges prioritaires avec les pays du Maghreb, et en particulier avec les États-Unis, puisque le Maroc est un des pays au Maghreb qui a le plus d'accords de libre-échange avec les États-Unis. ça leur fait. Donc, c'est une excellente plateforme pour eux.
Ouais.
On en revient un peu à la concurrence déloyale. Monsieur Stoffès, vous avez des choses à dire là-dessus?
Oui, alors d'abord, moi je suis le président du Centre d'études prospectives internationales, c'est l'Institut d'économie internationale français qui rassemble les données du commerce international, qui est rattaché au Premier ministre, qui est un service de l'État. Alors je voudrais quand même rappeler, moi, le point fondamental, c'est les vertus du libre-échange. Alors le commerce, ça crée des déséquilibres, de temps en temps vous avez des puissances nouvelles qui arrivent sur le marché, qui prennent des marchés, qui captent des matières premières et qui dérangent les équilibres. Donc nous sommes typiquement dans un cas de ce genre avec la Chine. Alors ça dérange, incontestablement ça dérange, et ça peut semer des inquiétudes, notamment parce qu'il y a des gens qui perdent des positions, et puis ça crée des inquiétudes. Mais rappelons quand même une vérité fondamentale, c'est que le libre-échange profite à tout le monde. Alors vous pouvez soutenir toutes les théories que vous voulez, bon, les économistes ne sont pas toujours d'accord, mais l'histoire économique parle clairement. Le libre-échange enrichit tous les partenaires. Alors, on voit les Chinois arriver, ils nous exportent des produits à bon marché, ils déplacent des investissements de délocalisation, notamment dans le textile, en même temps, ils réinvestissent, et puis ils achètent des matières premières, et puis, comme vous l'avez très bien dit, le tourisme, la Méditerranée a une vocation touristique très intéressante, et tout ça s'équilibre au bout du compte. Si vous vendez davantage, vous achetez davantage. Et c'est une vérité qui est confirmée par l'histoire économique. Il n'y a pas de question. Bon. Alors, deuxième question, concurrence déloyale. Alors, moi, je ne crois pas que le gouvernement chinois subventionne les marchés de travaux publics pour permettre aux entreprises chinoises d'avoir les marchés. La Chine n'a pas les moyens de subventionner. La Chine est un pays pauvre. C'est le plus riche des pays pauvres, mais comme vous le savez, la Chine se place délibérément du côté du tiers-monde. C'est le leader du tiers-monde. Ils ont remplacé l'Union soviétique dans l'idéologie universelle du rattrapage et de la contestation anticoloniale. Alors, il y a la question de la monnaie. Je crois qu'effectivement, la monnaie chinoise est sous-évaluée. Elle est durablement sous-évaluée. Et ça, c'est une forme de concurrence déloyale. Alors, pour quelle raison? Moi, j'ai posé la question à des collègues chinois, des économistes, etc. Je leur ai dit, mais enfin, vous avez bien compris que vous avez des déséquilibres majeurs, un excédent commercial durable sur de nombreuses années. Vous avez, je sais pas, 2000 milliards de dollars de réserves. Bon, s'il y a des crises financières dans le monde aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a des excédents chinois qui sont anormaux, des déséquilibres anormaux. Alors, si vous avez compris ça, pourquoi est-ce que vous ne réévaluez pas votre monnaie? Pourquoi est-ce que vous ne laissez pas le yuan se réévaluer? Ben, la réponse est très intéressante. La réponse, c'est en Chine, nous avons une démocratie certes populaire, mais une démocratie quand même, c'est-à-dire que c'est quand même les forces sociales et économiques qui font la politique, et la politique de change, c'est la banque centrale chinoise qui la décide sous l'égide du gouvernement chinois, et puis notre gouvernement, il est sous la pression du congrès annuel du Parti communiste chinois, et là-dedans, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les forces productives, c'est-à-dire vous avez les ingénieurs, vous avez les directeurs d'usines, des écoles centrales, il y en a beaucoup en Chine, vous savez très bien que c'est un pays qui forme beaucoup d'ingénieurs, qui croit encore, contrairement à nos pays en Europe, à la notion d'ingénieur. Je suis moi-même ingénieur, donc je vois bien que malheureusement que nous avons un peu délaissé cette profession. Eh bien, tout ce milieu qui sont les forces productives de la Chine, ils ont intérêt à une monnaie sous-évaluée parce que ça leur permet l'expansion internationale. Donc, dans l'équilibre des forces en Chine, vous avez un très fort parti pour une monnaie sous-évaluée. Nous avons eu la même chose avec le Japon. Le Japon a gagné des parts de marché au niveau international pendant 30 ans, disons dans les années 50, 60, 70, grâce à un yen qui était sous-évalué. Et ça a créé, comme vous le savez, des inquiétudes. Aux États-Unis, il y avait une véritable psychose anti-japonaise il y a 15 ou 20 ans. Vous en rappelez. C'est une véritable psychose. On voyait le péril jaune en action, l'industrie automobile, sidérurgique, navale américaine faire faillite sous les coups de la concurrence japonaise. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement américain a fait pression sur le gouvernement japonais et le yen a été réévalué, mais dans des proportions considérables. La valeur du yen par rapport au dollar, elle a été multipliée par 3. C'est pas une réévaluation de 20%. C'était multiplié par 3 en l'espace de 3 ou 4 ans. Et comme vous avez remarqué, depuis que le yen a été réévalué de ce facteur important, donc il y a une quinzaine d'années, la concurrence japonaise, vous n'en entendez plus parler. Les Japonais sont installés sur les marchés, ils nous font de très bons produits, nous sommes très contents, mais ils ont trouvé leur place dans l'équilibre. Ils ne constituent plus une menace d'exportation subventionnée par la monnaie. Bon, il est très probable que la Chine aura le même sort, c'est-à-dire que dans quelques années, le yuan sera réévalué. Très probablement parce que c'est tout simplement la force économique qui le fera. Mais En attendant, il est certain qu'il y a un déséquilibre. Et le gouvernement américain et les puissances occidentales n'ont pas le même pouvoir de rétorsion sur le gouvernement chinois pour les forcer à réévaluer la monnaie nationale qu'ils l'ont eu sur le Japon. Donc voilà, voilà le point, me semble-t-il, à dire. Alors, en ce qui concerne le libre-échange, j'ai terminé là-dessus, moi je trouve que le bassin méditerranéen souffre profondément d'un manque de libre-échange. Il faut bien, si vous regardez le point de vue de Sirius, c'est une zone qui est très divisée. Les pays se battent entre eux. Ils sont très conflictuels. Regardez le Maghreb déjà, regardez les trois pays du Maghreb, les héritiers de la colonisation française. Regardez les régimes marocains, tunisiens, algériens. Ce sont des régimes politiques très contrastés. Ils ne s'entendent pas. Bon, alors ne parlons pas du Moyen-Orient et des querelles, c'est quand même la zone du monde où il y a des conflits dramatiques. Ce sont des pays divisés. Et croyons aux armes de la paix. L'Europe était une zone divisée au début du XXe siècle, au milieu du XXe siècle. Aujourd'hui, l'Europe est devenue une zone prospère grâce au libre-échange, grâce au marché commun. L'irruption de la Chine dans le bassin méditerranéen va conduire cette zone à davantage de libre-échange. C'est pas normal que ce soit les Chinois qui fassent des usines de chaussures au Maghreb. Pourquoi est-ce que c'est pas les Français qui le font? Vous, les Marseillais, vous êtes la porte de la Méditerranée, vous êtes la porte de l'Orient. La porte de la France sur le monde méditerranéen. Bon. Il y a 2000 ans, au temps de la route de la soie, les deux grandes zones, les deux phares du monde, c'était la zone méditerranéenne, l'Empire romain et l'Empire chinois. Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Bon. À l'époque, l'Europe du Nord, l'Amérique du Nord, c'était des forêts sauvages. Bon, aujourd'hui, ce sont devenus des grandes zones industrielles et le bassin méditerranéen, regardez ce qu'il est devenu. Eh bien, c'est lamentable. Donc, appelons au développement économique, et non pas par des subventions, appelons-le par le libre-échange. Et je trouve encore une fois que les Chinois, même si ça nous bouscule, qu'ils viennent sur nos territoires jadis réservés, c'est certainement très positif.
La force de paix passe par...
Le commerce et les armes de la paix. Voilà.
Exactement. Alors, peut-être, M. Alotio, voulez-vous intervenir à ce niveau-là, et puis après, on parlera de la manière dont l'Europe peut faire l'Union méditerranéenne, parce qu'il y a quelque chose, il y a vraiment beaucoup de travail à faire, et si elle peut le faire sans la Chine, là, il me semble que la réponse est carrément non, puisqu'ils sont déjà là.
Oui, le leur serait de croire à un préalable comme étant l'union de la Méditerranée. Ça, ce serait un leurre, parce que, comme le disait le précédent orateur, effectivement, on est sur un territoire totalement divisé. En revanche, il n'est pas exclu d'imaginer que sur tel ou tel projet précis, on puisse pas rallier l'accord de 1, 2, 3, 4 pays. Donc, nous sommes de ceux qui pensons que c'est par l'approche projet que la donne pourrait changer. Et pour parler de comportement, c'est vrai que à chaque fois on a envie de corriger. Quand on parle de relations Nord-Sud, on aimerait bien parler de relations. Nous, on préférait Nord-Sud-Nord, de manière à bien montrer qu'il s'agit d'aller-retour et non pas d'aller simple. Ça, c'est dans les mentalités, c'est quand même des choses. Quand on dit est-ce que l'Europe doit faire l'union de la Méditerranée, c'est pas l'Europe qui va faire l'union de la Méditerranée. D'abord, on a déjà changé la terminologie, elle me paraît déjà plus pertinente. Il s'agit d'imaginer une union pour la Méditerranée, et c'est et l'Europe et la Méditerranée du Sud et orientale qui devraient ensemble le faire, et je le pense à partir de projets.
Alors, quel type de projet?